Classeco, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous êtes à l'écoute de Classeco sur volume 3. On a déjà écouté notre expert ce matin. Il est à présent temps de vous plonger dans une nouvelle destination entrepreneuriale. Et pour ce faire, comme chaque jour de lundi à jeudi, en Classeco sur volume 3, nous avons un profil, un invité qui vient nous parler de son activité entrepreneuriale, de son secteur d'activité et de son vécu au quotidien. Et aujourd'hui, bien entendu, on a un autre passager du jour. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit.
Notre passager du jour est passionné de mécanique et surtout ingénieur mécanicien diplômé de Polytechnique de Douala. Il a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice pour construire un Cameroun meilleur. Il nous propose donc des machines produites localement, pondeuses de parpaings, incubateurs d'œufs, presse à briques ou encore presse à huile. Il saura vous les confectionner. Il vient aujourd'hui nous partager sa réalité, son univers. Classeco, le plaisir de recevoir Franklin Kenfak, promoteur de Retournons vers le bio. Bienvenue à bord.
Le passager du jour dans Classeco.
Vous l'avez donc compris, on va parler de fabrication de machines sur le plan local, ce qui veut dire que vraiment, c'est un acteur clé dans l'import substitution pour beaucoup de machines pour les activités au quotidien. J'espère que les autres entrepreneurs tendent l'oreille pour écouter à présent ce qu'il est capable de faire pour vous. Et donc, on a Franklin Kenfak dans ce studio ce matin. Bonjour.
Bonjour Madame Folleux, bonjour chers auditeurs.
Merci, bienvenue chez Volume 3.
Merci.
Voilà, donc aujourd'hui on va parler de votre secteur d'activité. Et quand vous parlez de vous, pour ce que j'ai pu voir en tout cas, vous dites que vous êtes parmi les rares diplômés de votre promotion de Polytech à être resté au Cameroun. Moi je me dis c'est quoi? C'était plus par, c'est par manque de moyens ou c'est plus la conviction de oui je peux m'en sortir au Cameroun?
Bon, déjà, j'ai décidé de rester parce que, premièrement, je me suis heurté en réalité, celle que plusieurs de nos diplômés, après l'obtention de leur diplôme, s'en vont à l'étranger. Certes, moi-même, j'ai été tenté par cela, mais je me suis rendu compte que l'Afrique en général a beaucoup à offrir. Et je me suis dit, tiens, si ces expatriés, ces investisseurs viennent au Cameroun investir, pourquoi pas moi, la main d'œuvre avec le savoir-faire local, je ne peux pas apporter ma part de pierre à l'édifice. C'est donc après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur de conception à la Polytechnique de Douala, j'ai décidé de rester sur place et d'apporter ma pierre à l'édifice, comme je l'ai si bien dit.
Bah, c'était un choix difficile, vous avez réfléchi longtemps, parce que voir les autres partir quand même, et peut-être après on a des retours, on sait que vos profils en Occident, c'est vraiment, on se dit que nous, dès que tu es là, tu chômes pas. C'est un choix difficile?
Oui, oui, un choix très très difficile, parce que lorsque on se confronte à la réalité, on dit que bon, on va se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, sans vous mentir, c'est pas du tout le voie bébé. Il faut vraiment être très 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 aguerri, parce qu'il y a tellement de situations. Si ce ne sont pas les clients qui vous font les coups bas, ce sont les fournisseurs et autres. Donc, il faut vraiment avoir un mental très fort. Bon, le choix n'a pas été facile. Bon, aujourd'hui, je ne regrette pas quand même, parce que j'ai acquis énormément d'expérience. J'ai mon portefeuille client et relationnel aussi qui s'est développé. Donc, quand je vois tous ces avantages, je ne peux que remercier le bon Dieu.
Bah justement, quand ça n'a pas toujours été facile, je suppose que ça ne l'est pas toujours aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des moments où quand les choses sont vraiment compliquées et que vous avez l'impression que en regardant à gauche ou à droite vous n'avez pas de solution, vous vous dites est-ce que finalement je ne réouvre pas cette porte là?
Déjà il faut préciser que en tant qu'entrepreneur je suis également salarié au sein de l'entreprise ETS2FK sans publicité. Donc du coup au début je voulais démissionner, je me suis dit que donc c'est tout à fait possible de faire les deux, être salarié et entrepreneur. D'autant plus que le côté salarial me permet de me frotter beaucoup plus à l'industrie, ce qui me permet d'acquérir des notions et de les implémenter dans ma structure. Donc, c'est ça.
Du coup, il n'y a pas de conflit sur cet aspect-là avec votre employeur actuel. On arrive à séparer les deux. Quelle est la part du temps que vous consacrez à ces travaux à lui et la part que vous consacrez pour vos propres activités?
Non, il n'y a pas de conflit. D'autant plus que lorsque les horaires de travail sont bien définis, de 8 à 17 heures chez mon employeur, lorsque je suis dans ses locaux, je m'y consacre entièrement à ses travaux. Tout ce que je peux faire, c'est lorsque peut-être à l'atelier, parce que j'ai un atelier, mm-hmm. lorsque les gars me communiquent tout ce que je peux faire, prendre quelques minutes pour répondre et autres, si c'est important, je peux m'éloigner avec sa permission, bien sûr, de mon supérieur hiérarchique et communiquer et je reviens. Donc il n'y a pas de conflit entre les deux, je parviens à manier aisément les deux.
D'accord, justement. Quand vous terminez vos études et que toute votre promo de Polytech est sortie, dans votre idée, c'est il vous faut absolument créer votre entreprise ou vous décidez quand même que non, le temps d'avoir les moyens de me lancer, je vais travailler sur 2-3 projets ou pour 2-3 personnes. Comment ça se passe entre la fin des études et la mise en place de votre propre projet entrepreneurial?
Déjà, il faut rappeler que étant étudiant, en troisième année, c'est là qu'est née cette ambition entrepreneuriale en moi. Mm-hmm. En troisième année, je commençais déjà à développer des petits business et autres. Je me suis rendu compte que ça pouvait être une ressource financière sur le long terme. C'est donc à partir de là que j'ai décidé de véritablement prendre les choses en main. À partir de quatrième année, j'ai commencé à, au niveau des stages, mm-hmm. développer mes relations. À l'école aussi, j'ai parlé à mes amis. Je disais que bon, le monde professionnel et les aînés aussi, comment ça se passe. Il y a des retours d'expérience en stage. Bon, déjà, il y a un constat que la plupart des, là c'est pas un secret, la plupart des salariés dans différentes entreprises ne sont pas véritablement épanouis. Et dans mes différents stages, ces employés, je causais beaucoup avec ces différents employés, ils me disaient que bon, malgré leur salaire, ils n'étaient pas totalement épanouis. Surtout avec des salaires mirabolants, mais ils n'étaient pas épanouis. Mais c'est donc dit que pourquoi, c'est ce qui m'attend là. J'ai dit non, il faudrait que je trouve autre chose. Bien en tant que salarié, il faut que je trouve quelque chose qui va m'épanouir. Et j'ai trouvé que cet épanouissement va venir de l'accomplissement de ce que je sais faire, donc mm-hmm. fabriquer les machines.
Oui.
Donc c'est à partir de cette troisième, quatrième année, j'ai commencé à regrouper le petit nécessaire, avoir le petit matériel, les meules, les disques, les postes à souder et autres. Et je me suis lancé. Dans la cinquième année, j'avais déjà ce petit matériel pour lancer. Donc lorsque j'ai fini ma soutenance, je peux dire que Dieu a aidé. Quelques mois plus tard, j'ai été recruté en tant que salarié. J'ai été tenté d'abandonner, mais j'ai dit non, il faut que je continue.
D'accord. Maintenant, comme moi j'entends, retournons vers le bio. La plupart du temps, quand on entend ça, c'est on voit l'agriculture. Mais sauf que non. Pourquoi retournons vers le bio?
Merci pour cette remarque. Au départ, ma principale contribution était d'améliorer au niveau du domaine agro-pastoral, mm-hmm. dans les machines principalement axées dans le domaine de l'agriculture et oui. la transformation. Bon, je me suis rendu compte qu'ici au Cameroun, certes, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'agriculture, mais aussi d'autres qui sont intéressées par le secteur de la transformation, mm-hmm. les pondeuses de parpaing, les presses à briques de terre, ce qu'on voit. Mais dans le domaine de l'agro-industrie, mes premières machines que j'ai pu réaliser, par exemple, c'était les incubateurs d'œufs. Mm-hmm. Donc, c'est des machines qui permettent de quitter de l'œuf au poussin. Mm-hmm. Il y a aussi eu des choix, les aliments qui permettent de déshydrater les aliments que nous consommons. Mm-hmm. Donc, c'est de cela. Donc, retournons vers le bio vient initialement de ma pensée, celle d'intervenir beaucoup plus dans le secteur de l'agro-industrie.
Bah justement,
donc, plus tard, je me suis diversifié.
Justement, dans le domaine agricole, c'est quoi? Les gens n'ont pas toujours les moyens d'acheter les machines que vous fabriquez, même localement, ou bien vraiment, ça ne les intéresse pas encore d'aller dans ce sens-là?
Bon, je vais profiter de cette occasion pour dire que l'un des principaux problèmes dans ce secteur, c'est que les Camerounais en général font beaucoup plus confiance aux importateurs, aux machines qui viennent d'ailleurs. Ils se disent que lorsque c'est local, c'est pas bien fait. Or, ce qui est totalement faux. Je peux vous rassurer ici là qu'il y a des fabricants sur place. Je ne suis pas le seul, mm-hmm. qui fabrique des produits de très bonne qualité, qui rivalisent même aux normes internationales, mm-hmm. mais seulement il manque de visibilité. C'est pour ça que je tiens aussi à remercier la radio volume 3 de m'offrir cette opportunité de parler de ce que je fais.
D'accord.
Donc c'est principalement un problème de mentalité. Les Africains, nous en général, on a tendance à voir que ce qui vient de l'eau d'ailleurs est plus meilleur que ce qu'on peut trouver sur place.
D'accord. Justement, vous fabriquez plusieurs machines. Vous avez parlé de la première qui était un incubateur d'œufs. Avant qu'on revienne sur qui est quoi, qui sert à quoi concrètement, quelles sont les différentes machines que vous produisez aujourd'hui localement?
Ok, je vais citer, la liste elle est grande, mais je vais citer quelques-unes. Il y a les incubateurs d'œufs, comme je disais, une machine qui permet de quitter de l'œuf au poussin. Mm-hmm. Il y a les séchoirs. Les séchoirs sont les machines qui permettent de déshydrater les aliments. Donc tout ce qui est eau, de retirer ça permet non seulement de prolonger la durée de conservation des aliments. Mm-hmm. Troisièmement, il y a les pondeuses de parpaing. Les pondeuses de parpaing, c'est une machine qui permet de produire les parpaings vibrés. Vous savez, aujourd'hui, dans la construction, il y a les normes. Et la norme voudrait que les bardages, c'est-à-dire les couvertures des ouvrages, soient faits en matériaux résistants. Donc, c'est pas qu'on ouvre, on migre beaucoup plus vers les parpaings vibrés parce que les parpaings sont robustes. Quatrièmement, nous avons les malaxeurs. Les malaxeurs sont ces machines qui permettent de mélanger différents types d'aggrégats, sable, pozzolane, gravier, autres, pour avoir un béton uniforme. Mm-hmm. Et cinquièmement, nous avons aussi les monte-charges. Les monte-charges, les équipements qui permettent de soulever des charges dans les différents chantiers, sable, parpaing. Et nous avons aussi les presses à huile. Mm-hmm. Vous savez aussi les presses à huile, leur domaine agro-industriel, qui permet de quitter du palmier, du régime à l'huile.
Mm-hmm. Okay. D'accord. Ok. Justement, pour qu'on revienne à cette histoire de pondeuse de parpaing, pour moi, le parpaing, c'est le parpaing. Quand on dit que parpaing vibrait, là, après, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, ça veut dire quoi? Avec toutes ces machines-là aujourd'hui, on supprime, parce que c'est souvent cet aspect-là que les gens voient aussi, on supprime le travail de combien de maçons aussi à la machine qui va faire le parpaing vibrer. Comment ça fonctionne en termes d'usage pratique?
Ok, déjà, il faut savoir que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle mécanique, on veut supprimer la main d'œuvre humaine. Non, la machine a sa part et l'être humain a sa part. Mm-hmm. Prenons un exemple. Lorsque nous avons dans un chantier un entrepreneur qui veut produire ses parpaings, premièrement, ce qu'il peut faire, il peut peut-être faire appel à un maçon, à un frappeur, on l'appelle frappeur pour frapper ses parpaings. Mais il y a cet inconvénient que le maçon, lui, il n'a pas, ce frappeur-là, il n'a pas d'identité. Il peut peut-être, vous pouvez lui dire qu'un sac te sort 35 parpaings, lui te sort peut-être 50, le reste il vend et autres, donc la magouille. Or que la machine a cet avantage qu'elle, elle est honnête. Si tu lui as programmé que tu veux produire 35 parpaings par sac, elle va te produire 35 parpaings. Deuxièmement, aussi le temps de production. Lorsque, avec une machine, par exemple, le modèle QTJ40 que je propose, cette machine peut produire pratiquement 3000 parpaings de 15 par jour. Or, un être humain normal ne peut pas produire en une journée plus de 20 sacs de ciment, donc plus de 600 parpaings. Donc, il y a le rapport qualité-prix qui est là. Troisièmement, au niveau de la qualité, le parpaing fait manuellement n'est pas robuste. Même si vous le dosez à 35, par exemple, un exemple, un parpaing, il y a des tests que j'ai eu à faire, un parpaing qui est dosé à 35 par sac est moins résistant qu'un parpaing vibré qui est dosé à 60 par sac. Donc, lorsqu'on a un parpaing vibré qui sort 60, une machine qui sort 60 parpaings, on prend un parpaing, on effectue un test avec un parpaing manuel. Le parpaing qui est fait vibrer avec la machine est plus résistant.
D'accord. Justement, ça se passe comment? C'est l'humain qui fait le mélange et la machine fait le reste du travail?
Il y a deux machines principalement pour l'unité. Il y a le malaxeur qui permet de mélanger différents aggrégats et ensuite il y a la pondeuse. La pondeuse, c'est elle qui presse les différents aggrégats pour rendre vibrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend les différents aggrégats dans des boîtes qu'on charge, on met dans le malaxeur. Les aggrégats sont ici à droite, là, on utilise le sable carrière, donc sable de couleur jaune, de couleur grise que vous voyez souvent avec la pozzolane fine noire, il faut la préciser, l'eau, le ciment, voilà les principaux ingrédients. On dose, dès que la machine, le malaxeur finit de mélanger, ça sort, on prend avec des pelles, on charge de la machine et on enclenche le processus. À la sortie, on a des parpaings vibrés.
D'accord. Maintenant, on revient à l'incubateur automatique d'œufs. Vraiment, on a dit que c'est pour passer de l'œuf au poussin. Mais j'ai envie de dire que même sans l'incubateur, on passe de l'œuf au poussin. Du coup, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça améliore pour les aviculteurs?
Déjà, il faut savoir que le cycle de couvaison d'une poule est de 21 jours. Si vous avez une poule qui pond, d'après les statistiques, une pondeuse doit pondre environ 300 à 310 œufs l'année. Donc, près de 6 œufs par semaine. Mm-hmm. Oui, par là. Si vous prenez cette poule, vous l'allez, chaque fois qu'elle pond, elle couvre, vous allez vous rendre compte que lorsqu'elle va pondre et couvrir, le temps qu'elle va prendre, elle va perdre 21 jours là pour couvrir ses œufs. Mm-hmm. C'est une perte en production. Or, vous pouvez uniquement laisser la poule pondre les œufs et avoir une machine qui se charge de la couvaison. Là, non seulement vous perdez, vous gagnez en productivité. Le temps que la poule consacre pour la couvaison, ce temps est gagné. Mm-hmm. Pour, ainsi, vous pouvez atteindre cet objectif de 300 à 310 œufs par an.
Donc, ça n'accélère pas, ça respecte les 21 jours, sauf que la machine se substitue à la poule.
Exactement.
Et ça reste... Parce qu'on a souvent que vraiment l'œuf... Que, c'est pas censé être la même chose. On est habitué à voir la nature opérer. Mais justement, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on fait? On peut mettre les œufs en désordre et puis ça va, il y aura éclosion au fur et à mesure qu'on aura atteint les 21 jours. Ou bien il faut quand on a enclenché la machine, on peut pas l'ouvrir n'importe comment. Il faut attendre que 21 jours passent concrètement.
Donc il y a différents types d'incubateurs. Les incubateurs manuels, ceux-là, on peut les ouvrir comme vous dites de manière fréquente pour effectuer le retournement. Parce qu'il y a trois paramètres indispensables dans le processus de couvaison. Il y a la température qui doit être entre 37 et 36 à la fin du cycle. Donc vers le 18e jour, il y a l'humidité qui doit être dans les premiers jours de 55 à 60. Mm-hmm. Maintenant, il y a le retournement. Le retournement, si vous voyez bien la poule, lorsqu'elle couvre, à certains moments de la journée, elle se couvre. C'est pour retourner, pour que l'embryon en développement ne colle pas sur la coquille. Okay. Ben, si cet embryon colle là, après, le poussin aura des difficultés à sortir. Bon, les incubateurs manuels, parce que moi, je propose beaucoup plus d'incubateurs automatiques. Mm-hmm. Les incubateurs automatiques allient ces trois fonctions. Donc, humidité, chaleur et retournement. Donc tout ce que l'homme a fait, il vient, il contrôle juste.
Okay.
Il fait des routines de contrôle et autres. Et après 18e jour, il charge les œufs dans les alvéoles. Au 18e jour, il passe des alvéoles dans les paniers d'éclosion. Les paniers d'éclosion sont les éléments dans lesquels les poussins vont sortir. Donc c'est un peu ça le process.
Donc quand on a mis ces œufs dans ces incubateurs automatiques là, on ne va rouvrir l'incubateur qu'après 21 jours.
Au 18e jour, pour changer, comme j'ai dit, passer des paniers aux alvéoles et après, au 21e jour. Bon, les poussins sortent, commencent à sortir à partir du 20e jour. Donc, 20e, 21e et 22e jour, c'est là où on ouvre pour faire sortir les poussins qui sont secs.
Vraiment, il n'y a rien qui est facile dans cette... On voit les œufs, on voit l'élevage, on voit les poussins et tout ça, mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il peut y avoir, même si la machine est censée faciliter ça un peu. Donc, tout à l'heure, on a parlé également de la presse à briques. Ça, c'est, au niveau de la presse à briques, c'est quoi? C'est les briques traditionnelles qu'on peut voir dans les villages ou c'est celles qui sont un peu plus petites qui ont l'air des décoratives là?
Déjà, les briques qu'on utilise conventionnellement dans l'ouest ou dans nos villages sont les briques de dimension 15 de large, 20 de hauteur et 40 de long. Mais les dimensions des briques que je propose, c'est 15 de large, 30 de longueur et 10 de hauteur. Donc, ces briques sont plus petites.
Mm-hmm.
Premièrement, pourquoi? Ça facilite la mise en œuvre au chantier. Vous vous rendez compte, les maisons qu'on construit dans nos villages prennent énormément de temps parce que non seulement ces briques sont lourdes, donc les façons pour les maçons n'est pas du tout évident, alors que le modèle de briques que je propose ont cet avantage que premièrement la légèreté, ce qui permet un temps de pose plus rapide. Deuxièmement, il y a le mécanisme d'autoblocage, donc au niveau
de sont des briques autobloquantes,
oui, parfaitement. Donc ce qui fait qu'au montage, au niveau du montage, on appelle ça le mortier de pose est très fin, donc ce qui fait des économies sur les réalisations.
Donc vous êtes quelqu'un qui intervenait parce que les briques autobloquantes, on entend parler ça beaucoup plus quand on parle de construction et écologique. Donc, ça donne une piste pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Dans la deuxième partie tout à l'heure, on va continuer à parcourir un tout petit peu l'univers des machines de Franklin Quinfac. Donc, on va souffler. On se dit à tout de suite.
Le passager du jour dans Classeco.
Classeco se poursuit. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on entame la deuxième et dernière partie de notre échange avec notre passager du jour, Franklin Quinfac, qui nous propose plein de machines faites localement. Donc, depuis là, on a parlé d'incubateurs, de pondeuses de briques, de quoi encore. On a parlé des broyeurs mélangés et tout ça, mais moi, je veux qu'on parle de presse à huile. Parce que je sais également qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs localement qui produisent des huiles d'avocat, des huiles de palmiste, toutes sortes d'huiles végétales et qui ont souvent sur l'aspect des machines, ça peut être compliqué entre faire venir des trucs. Il y a des machines qui sont produites localement, mais là, il faut qu'on comprenne également comment ça se passe. Déjà, presse huile, c'est pourquoi? C'est exclusivement pour... parce que tout à l'heure, vous avez pris l'exemple des noix de palme et tout ça. C'est pour tous les types d'huile ou bien les machines s'adaptent, on va dire quoi, à la matière première dont on veut extraire l'huile.
Oui, déjà, les presses, il y a différents types de presses selon le procédé. Il y a les presses à froid, les presses à chaud.
D'accord.
Par exemple, pour les palmes, c'est la presse à froid.
Mm-hmm.
Pour les huiles, ce qui est utilisé dans la cosmétique, ce sont les presses à chaud.
Mm-hmm. Donc on peut pas avoir de... Ben, puisqu'il y a des gens qui décident de presser les huiles à froid.
Oui, là ça va dépendre de son process. En fonction de son process, déjà on fait une analyse du besoin du client, ce qu'il a. Parce que généralement on se rend compte que le client, il ne sait même pas ce qu'il veut. Et il faut d'abord comprendre le besoin du client et lui proposer une machine adéquate.
D'accord, et après quoi? La taille des machines dépend de...
La capacité de production, de ce que le client vit.
Pas forcément de la capacité, mais de l'élément qu'on veut transformer. Parce que, je ne sais pas si c'est la noix de coco, c'est peut-être un peu plus grand que si on veut faire des noix de palme. Est-ce que ça s'adapte ou bien non, c'est dépressoir, c'est juste à chaud et à froid et puis ça s'adapte à tous les produits?
Ça s'adapte en fonction de la capacité de production voulue par le client et du type de matière première qu'il veut et son process. On lui propose une unité qui va dans ce sens-là.
D'accord, donc il y a déjà des modèles préconçus et après on lance le process de fabrication en fonction de ce que le client veut.
Oui, on peut apporter des améliorations à l'existant. C'est par exemple, si un client, on se rend compte qu'un client a besoin d'une amélioration. Là, on adapte la machine en fonction de ses besoins.
Donc, tout est possible avec vous?
Oui, tout est possible.
D'accord. Maintenant, puisqu'on a quelqu'un qui fabrique ces machines-là, est-ce qu'il y a des astuces que les novices peuvent utiliser pour être sûrs de la qualité du matériel, notamment au niveau de la matière première? Je ne sais pas si c'est le fer ou si c'est l'acier ou comment ça s'appelle en fonction de... Est-ce qu'il y a des matières qui sont adaptées peut-être à la transformation des huiles qui ne seront pas les mêmes pour le mélangeur et tout ça? Est-ce qu'on, en fonction de du résultat qu'on veut, on peut avoir l'œil pour repérer que, parce que ce ne sera pas toujours vous, malheureusement, comme prestataire, quels sont les éléments auxquels on doit faire attention quand on reçoit, je ne sais pas, une machine qu'on a commandée, qu'elle soit importée ou faite localement, pour être sûr que c'est de la bonne matière et qu'il n'y aura pas de contamination au niveau du procédé de transformation?
Déjà, il faut savoir que lorsque, ça dépend du domaine d'activité que vous êtes. Lorsque, par exemple, vous êtes dans la cosmétique ou l'agroalimentaire, donc principalement l'alimentation humaine, il est conseillé d'utiliser des machines qui sont fabriquées en acier inoxydable. Déjà, pour remarquer l'acier inoxydable, il faut prendre un aimant. Lorsque vous approchez l'aimant de la tôle, si c'est la tôle en acier inoxydable, elle ne colle pas. Donc, l'acier inoxydable n'est pas magnétique, en fait. Ça, c'est un test pour voir si vos machines sont en acier inoxydable. Déjà, l'acier inoxydable est très, très cher. Donc, souvent, ce qu'on fait en fonction du budget du client, on peut trouver un autre matériau palliatif tel que les tôles marines. Les tôles marines, elles sont magnétiques, mais elles ont cet avantage qu'elles ne se corrosent pas vite. Donc, ce sont des tôles qui sont généralement grises foncées. Donc, on l'utilise souvent en remplacement de l'acier inoxydable.
Du même type que celle qu'on retrouve dans les moulins écrasés, là?
Non, ces tôles-là sont utilisées pour la, comme vous voulez, en tôle marine. C'est les tôles utilisées pour la fabrication des bateaux.
OK.
Les coques de bateaux. Donc, vous savez que la mer, c'est un milieu extrêmement corrosif. Donc, utilisez cette tôle-là pour fabrication des coques de bateaux.
Donc, si on a commandé et qu'on vous a promis de l'acier inoxydable, le test d'éléments, c'est le test ultime.
Oui.
Mais si on ne vous a pas promis l'acier inoxydable, il faut encore un tout petit peu avoir l'œil ou se faire accompagner de quelqu'un qui maîtrise un peu.
Oui, c'est ça.
D'accord, parce qu'on sait que très souvent, on commande, on a l'idée de ce qu'on veut. Quand ça arrive, on ne sait pas toujours comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on a reçu également ce qu'on a commandé. Maintenant, combien de temps, en fonction de la machine qu'on commande, ça vous prend pour en fabriquer?
Peut prendre un exemple. Par exemple, la pondeuse de papin, le temps de réalisation d'une unité complète, donc en passant par le malaxeur, la pondeuse et 4 moules avec le chariot de transport, c'est 2 mois.
D'accord.
Le temps de réalisation. Et tiens à préciser que les différents éléments qui ne sont pas produits localement, les moteurs, les vibreurs, les réducteurs, les importent de Chine chez les fournisseurs directement à l'usine. C'est ça qui réduit un peu le coût final de mes produits. Parce que les différents éléments, comme j'ai cité les moteurs, les réducteurs, les vibreurs qu'on ne trouve pas localement, je les importe en Chine.
D'accord, justement, puisqu'en parlant de chacun, combien de temps ça prend et des spécificités de chacun, on va donner le prix une fois-ci, prix. Là, on a parlé de la pondeuse de parpaing. Ça, c'est minimum combien qu'il faut mettre pour en avoir une?
Bon, la pondeuse de parpaing avec le grand malaxeur. Le grand malaxeur, c'est celui qui peut mélanger 7 boîtes bien chargées, 4 moules. Donc, si vous voulez le moule de 15, des 20, des oudis et des 12 par 50 avec le chariot, il faudra prévoir 6 500
000. Quand même, elle est livrée en 2 mois.
Oui, 2 mois.
Et le petit modèle?
Le petit modèle est pondeuse, comme je disais, pondeuse manuelle. L'autre là, avec le petit malaxeur, la pondeuse et le chariot, vous pouvez l'avoir à 3 millions.
D'accord, quand
là,
même.
Il y a aussi les machines, les incubateurs. Les incubateurs, par exemple, de capacité 5000 œufs, je le fais à 2 millions. Maintenant, celui de 10 000 œufs, je le fais à 3 500 000.
Et ça, c'est combien
avec
de temps?
Avec tous les accessoires.
C'est toujours 2 mois pour...
Non, pour les incubateurs, c'est 1 mois. Le temps de grande capacité, 10 000. C'est okay. 1 mois le temps de réalisation.
D'accord. On avait quoi d'autre? Les presses briques?
Les presses à briques, il y a le modèle manuel. Le modèle manuel, c'est 600 000. Qui sort 2 briques par cycle. Maintenant, il y a le modèle hydraulique. Donc là, ce n'est plus l'être humain qui presse, mais un moteur.
Mm-hmm.
Le modèle hydraulique avec le moteur thermique, donc le moteur qui prend du carburant,
mm-hmm.
celui-là, c'est 2 millions.
OK.
Maintenant, le modèle hybride hydraulique avec le moteur électrique, donc en courant, c'est mm-hmm. 1 800 000.
D'accord.
Et il y a aussi le modèle hybride qui prend les deux.
OK.
Celui-là, c'est 2 500 000.
D'accord. Et la presse à huile?
La presse à huile, bon, pour le last, je vais faire une petite anecdote par là. Lorsque j'étais petit, le prix du litre d'huile de palme, je me rappelle très bien, à l'époque c'était 400 francs. Mm-hmm. Aujourd'hui c'est 1000 francs.
Mm-hmm.
Donc ça a pratiquement presque triplé.
Oui.
Et cela c'est parce qu'on se rend compte que la population camerounaise augmente. Avant peut-être il y avait la production. L'offre était égale suffisamment à la demande, mais mm-hmm. aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'offre est tellement inférieure à la demande. Donc, du coup, même avec les importations, on n'arrive pas à pallier la demande sur place. Donc, du coup, les usines sur place, malgré le fait que la production, au fil des années, augmente, il y a les personnes qui investissent dans les palmeraies,
mm-hmm.
on n'arrive pas à combler la demande. Et ce que je propose dans ce thème, c'est vraiment que les pouvoirs publics et autres mettent en place comment augmenter vraiment, parce que l'huile de palme vraiment aujourd'hui c'est un produit phare.
Mm-hmm.
Il entre presque pas dans tous les domaines d'activité, que ce soit la cosmétique, l'alimentation ou autre. C'est une des huiles les plus consommées dans le monde.
Mm-hmm.
Et pour cela, la presse à huile, autant pour moi, que je propose est une presse qui a un rendement de plus de 90%. Il y a une presse, le modèle que je propose a deux vis, c'est-à-dire quoi? Celle avec une seule vis, un taux de rendement autour de 75%.
Mm-hmm.
Mais celle que je propose a deux vis, un taux autour de 90%. Donc vous êtes sûr qu'avec cette presse, vous avez un rendement qui va avec.
Donc ça veut dire que si pour, deux régimes de noix, vous aviez souvent 2 litres avec ça, on peut passer à 3.
Exactement, vous avez tout compris.
D'accord, et ça coûte combien comme ça?
Bon, la presse, celle qui peut presser 4 tonnes l'heure. Celle-là, c'est 5 millions.
Mm-hmm.
Maintenant, il y a les modèles plus réduits qui peuvent presser 1 tonne. C'est dans les 1 500 000 et 4 millions en fonction des améliorations aussi. Il y a le client, peut-être la zone, le pressoir du client est en milieu urbain. Là où il a peut-être accès au triphasé. Et là, on pourra faire avec le moteur électrique qui est un peu plus moins cher. S'il est dans les zones reculées, il n'y a pas de triphasé. Là, ce sera un moteur à gazole qui prend du carburant.
D'accord. Quand j'entends les prix comme ça, je me dis, du coup, on paye comment? On peut échelonner les paiements, il faut tout payer cash, il faut payer 70% avant qu'il valide la commande. Comment ça se passe au niveau des règlements?
Là, c'est un arrangement avec le client en fonction de son portefeuille, de ses moyens.
Mais pour commencer, quand même, il doit verser quelque chose.
Oui, oui. Ce qu'on demande généralement, c'est 50% minimum,
mm-hmm.
au moins une avance de 50%. Mais on recommande généralement 75%.
D'accord.
Et maintenant, le reste en fonction de 2 mois ou 1 mois après ou à la livraison.
D'accord.
Donc, c'est minimum 50%.
Ok. Et j'ai également vu quelque part que vous faisiez de la tropicalisation de machines importées. Je me dis tropicalisation, on rend ça comment?
En fait, quand on parle de tropicalisation, on parle de l'adapter en fonction du contexte africain. Par exemple,
quand ça vient là, ça ne fonctionne pas. Hein?
Non. Par exemple, lorsque vous achetez une machine en Europe ou en Chine, cette machine a été conçue selon les standards et les normes du marché, donc européen ou chinois.
Mm-hmm.
Donc, lorsque vous l'achetez, il y a 2 options. Soit vous demandez déjà au fournisseur de vous la rendre en fonction de vos exigences sur place. Soit vous l'achetez et vous venez sur place pour l'arranger selon vos normes. Donc, c'est ça qu'on parle de tropicalisation.
Il y a beaucoup de personnes optent pour cette solution-là. Pour ceux qui ne font pas confiance aux machines produites localement, c'est quelque chose qu'on vous demande beaucoup?
Oui, oui, oui. Il y a des gens qui, bon, comme je l'ai dit lors de la première phase, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils importent encore. Donc, lorsqu'ils importent comme ça, ils viennent et c'est là où parfois je suis un peu content parce que je me dis que tu as importé, voilà ça qui t'a calqué, qui te cale au cou, tu viens maintenant, tu me fais appel là, maintenant tu marches selon mes pas. Mm-hmm. Donc j'aime beaucoup traiter avec ce genre de personnes, mais je fais le travail de qualité.
D'accord, et pour la tropicalisation, c'est à partir de, parce que je suis sûr que ça dépend encore de la machine, de la complexité du travail. Là, c'est quoi? Il y a un minimum ou bien c'est l'entente?
Là, comme il y a l'entente entre les deux parties.
D'accord. Et justement, pour vos propres machines, comment ça se passe? Parce que justement, les standards, on obéit finalement à quelles normes? Il y a les normes internationales, il y a les normes camerounaises en termes de machines. Comment ça se passe?
Bon, déjà, en termes de machines, il y a les normes européennes. Mm-hmm. C'est celles que beaucoup plus avec lesquelles je travaille parce que les normes européennes sont beaucoup plus détaillées et précises. Ça permet d'avoir accès à n'importe quel type de marché. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup plus de ces normes. Mais il y a aussi les normes locales, la norme et autres que je consulte parfois pour intégrer dans mes conceptions.
Justement, est-ce que sur cet aspect-là, il y a souvent un aspect vérification du côté des normes de ces professionnels-là?
Non, pas du tout. Bon, généralement, non. Les machines que je propose, mm-hmm. je m'assure qu'elles répondent au cahier de charge du client et sont conformes aux normes. Maintenant, si le client veut faire appel à un organisme de certification, là, c'est à ses frais.
D'accord. À ce jour, combien de... On va dire quoi? En fonction des commandes, est-ce que vous allez faire combien de machines, je sais pas, vous pouvez confectionner sur l'année, sur le mois? Est-ce qu'il y a des moments où il y a beaucoup plus de commandes que d'autres?
Oui, oui. Il y a les périodes, moi, comme dans tout secteur d'activité, il y a aussi les périodes florissantes. Mm-hmm. Et je peux estimer le taux de machine par an. Je peux dire que le domaine ça dépend de la machine. Mm-hmm. Les pondeuses, par exemple, je peux réaliser 6 machines par an. Mm-hmm. Et les autres machines, par exemple, les incubateurs, je peux réaliser 12.
Donc, c'est les incubateurs qu'on demande beaucoup plus.
Oui, les incubateurs avec les pondeuses, c'est un produit fort.
D'accord.
Soit les pondeuses, il y a aussi ceux qui ont les fabriques, qui ont les moules. Mm-hmm. Par exemple, comme ça rentre tout dans le cas de tropicaliser, que les moules sont arrivés, sont trop gourmands. Mm-hmm. Donc, il faut les rendre économiques. Ça rentre dans le thème de tropicalisation et autres.
D'accord. Donc, c'est toujours des choses que vous pouvez gérer.
Les maintenance, oui, aux machines, aux particuliers et autres.
D'accord. Du coup, pour profiter de tout ça, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Pour ceux qui veulent, je sais pas, venir voir ou venir vous rencontrer, ils viennent nous, ils font comment?
Bon, déjà, mes locaux sont situés du côté de Douala Bonabéry, derrière le lycée polyvalent.
D'accord.
Et j'ai une page Facebook intitulée Retournons vers le bio. Mm-hmm. Retournons vers le bio, comme cela se dit. Et je peux aussi être disponible au numéro suivant, le
693 63 63 03 64.
Et le deuxième numéro,
61. Donc 693 63 03 64, 682 68 68 41. Voilà les numéros si vous voulez rentrer en contact avec monsieur Kinfak, gérer votre problème de place, comme on dit chez nous au quartier. C'est un marché en plein essor quand même, malgré les réticences des gens à se fournir localement, ou entre quand vous avez commencé et aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué au niveau des mentalités.
Bon, oui, je vois qu'il y a une nette évolution. Ben, ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais ça, les choses s'améliorent. Notamment avec la politique d'impôt substitution prônée par le chef de l'État. Et les choses bougent, même si on ne sait pas comment on veut, mais ça s'améliore. Les mentalités sont déjà en train de bouger de ce côté-là.
D'accord. On sait aussi que la question du financement, c'est souvent un véritable problème dans votre secteur d'activité. Vous avez passé ce cap-là ou bien vous avez trouvé des solutions tant bien que mal? Parce que si tous les clients ne payent, on dit que 50%, est-ce que 50%, ça vous suffit toujours? Est-ce que dans l'optique du développement de votre projet, ça va, on est tranquille à ce niveau-là?
Bon, déjà au niveau du financement, c'est sous fonds propres. Mm-hmm. Sous fonds propres. Lorsque je demande peut-être 50% comme avance, la plupart du temps, ça dépend des relations que j'ai avec le client. Si je vois que c'est un client réglo avec lequel j'ai déjà eu à faire des deals, je peux prendre mon argent pour investir, terminer ces travaux-là, à la fin, il me paie. Mm-hmm. Mais si c'est un client que je n'ai pas de crédibilité, je prends les 50%, j'avance. Lorsque l'argent finit, je ne lui fais pas et je je progresse avec ces travaux.
Est-ce que ça arrive que les gens aient payé 50% et qu'ils ne terminent pas et qu'ils vous abandonnent avec ce travail-là?
Oui, il y a quelques rares cas comme ça. Ou alors, ils passent aux oubliettes, après un beau matin, ils reviennent, disent que si tu n'as pas méga, tu as peut-être fait sa machine et tu as vendu. Mm-hmm. Tu es obligé à l'instant de trouver une solution.
D'accord. Donc, mais quand même, de façon générale, ça se passe plutôt bien jusqu'ici.
D'accord, oui, c'est ça.
D'accord. Quelle est la prochaine étape que vous voulez atteindre? Quel est votre, le rêve que vous avez pour retourner vers le bio?
Bon, je compte. Mon projet pour l'instant, c'est vraiment que retournons vers le bio soit un des piliers de la fabrication et la transformation ici en Afrique. Parce que je me suis rendu compte que presque c'est un domaine à explorer. Mm-hmm. Beaucoup, nous produisons énormément, mais nous ne transformons pas. C'est pour ça que vous avez remarqué, cette saison, c'est la saison des mangues. Vous allez voir que février, mars, avril, les mangues commencent. Mais après, là, il n'y a plus les mangues sur le marché. Parce que quand ça produit, là, on ne transforme pas. On se sent après. Et basta, tout la vie continue. Après, peut-être un jour, quelqu'un a envie de sucer la mangue. Il n'y a pas la mangue sur le marché. Or, si on avait cette transformation de telle sorte qu'il y a un séchoir, on prend ce séchoir, on prend la mangue, on découpe, on met le séchoir, on a la mangue séchée, on garde. Ça fait que tu peux, et quand on sèche l'aliment, tu peux garder ce qu'on conserve sur 2-3 ans. Donc, tu t'assures juste que l'emballage soit aimé, tu commences à fermer. Le goût. D'autres vont dire que non, on a enlevé l'eau. Non, je peux vous rassurer que c'est la même saveur. Donc, c'est un peu ça.
En tout cas, on va espérer que cette émission aujourd'hui vous apporte une certaine exposition pour faire connaître au Cameroun et ailleurs toutes ces machines-là que vous produisez. Merci beaucoup, Franklin Kinfak, pour ce beau projet qui, je pense, peut changer la vie de nombreux entrepreneurs dans d'autres secteurs comme c'est votre cas. On espère que Retournons vers le bio va également transformer votre vie à vous, sait-on jamais.
Merci, c'est à moi de vous remercier, comme j'ai dit, pour cette opportunité de m'exprimer. Cela augmente ma visibilité et j'espère donner le meilleur de moi pour satisfaire vos attentes.
En tout cas, on vous a donné les numéros pour pouvoir le contacter. Nous, une fois de plus, on va marquer une pause et puis quand on revient, on ira au marché.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.